Et ce matin, Lise, nous allons parler de la criminalité dans le secteur arabe et de l'arrestation de 4 Arabes israéliens liés au Hezbollah avec votre invité que je vous laisse nous présenter.
Alors, je suis ravie d'être en ligne ce matin avec Raphaël Jérusalemi, écrivain et ancien officier des renseignements militaires. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Alors, pourquoi je voulais qu'on parle de la criminalité dans le secteur arabe ? Parce qu'hier, donc, il a été décidé que désormais, le Shin Bet va assister la police dans cette lutte qui est très importante pour l'État d'Israël, en fait, Raphaël.
Alors, sur le plan légal, le Shin Bet ne peut opérer dans le secteur arabe israélien que s'il y a un glissement du danger de la criminalité vers le terrorisme. Mmh. C'est donc le cas de l'événement qui a été révélé hier, qui s'est passé il y a un peu plus d'un mois. C'est le fait qu'il y a en fait des gangsters du secteur arabe qui sont mêlés à une affaire qui est liée d'une part au Hezbollah et d'autre part à une contrebande d'armes illégales, dont des explosifs, des engins explosifs, qui ont été d'ailleurs utilisés pour des règlements de compte dans le secteur arabe israélien et qui n'ont pas véritablement glissé vers le terrorisme, mais il y a ce potentiel qui justifie donc l'intervention du Shabak. Dans beaucoup d'événements de vengeance, de vendetta, vengeance sur le sang ou crime sur l'honneur du secteur musulman, le Shabak ne peut pas intervenir et d'ailleurs ne veut pas intervenir. Il s'agit ici de préserver les droits du citoyen. C'est un travail donc de la police. Donc, comme je l'ai dit, lorsque le Shabak intervient, c'est parce qu'il y a une possibilité de lien au terrorisme. Alors là, évidemment, avec ce Hezbollah, c'est effectivement inquiétant de voir cette contrebande d'armes illégales. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a tout simplement 3 frontières et 3 endroits par lesquels les armes illégales passent. Il y a d'abord au sud le Sinaï, donc les Bédouins en Égypte sont des champions de la contrebande. Ils font passer même des voitures, hein, donc ils sont très très costauds. C'est pour ça qu'on construit une barrière avec l'Égypte. De la Jordanie aussi, un grand apport d'armes illégales, lui financé par les gardiens de la révolution iraniens, qui ont organisé la mafia jordanienne et les Bédouins de Jordanie avec la mafia palestinienne pour faire passer des armes vers les territoires. Et puis donc le nord avec le Hezbollah, la Syrie c'est calme, la Syrie ça a toujours été calme, c'est une frontière très très bien gardée et les Syriens de leur côté ne veulent pas d'avoir d'histoire, donc c'est la seule frontière qui soit relativement calme sur le plan de la contrebande. Et il reste donc le Liban qui a toujours été traditionnellement un des hauts lieux de la contrebande, surtout de la drogue. Les Libanais produisent beaucoup de drogue et donc on font passer vers Israël où il y a une clientèle, oserais-je dire, avec jusqu'à présent, il y avait eu un certain arrangement entre les contrebandiers libanais et les Israéliens, dans la mesure où les contrebandiers libanais donnaient aux Israéliens des renseignements sur le Hezbollah. Et je pense que ça continue toujours. Moi, j'ai moi-même assisté en plein hiver dans le Golan à l'arrivée de contrebandiers qui n'ont pas du tout été inquiétés. Ils sont venus juste au rapport pour nous dire où se trouvaient certains postes du Hezbollah. Et puis, on continue leur contrebande. Dans ce cas-là, il s'agissait d'une contrebande relativement innocente de cigarettes, de Marlboro. Donc, vous voyez qu'il y avait cette ambiguïté-là. Aujourd'hui, il est facile de faire passer de la marchandise d'une frontière à une autre. Dans ce cas précis, il suffit de jeter par-dessus la frontière ce qu'on veut faire passer si ça pèse pas lourd et si c'est pas fragile.
Alors, ce qui fait quand même vraiment peur dans cette histoire, Raphaël Jérusalemi, c'est que c'est des Arabes israéliens donc, qui se promènent sans souci puisqu'ils ont la citoyenneté. 3 habitants de Kfar Kassem et 1 qui habite à Lod. Et ça ramène sur, dans notre mémoire les émeutes dans les villes mixtes qui ont eu lieu et qui rappellent en fait qu'il y a un danger intérieur plus important qu'avant.
Oui, je rappellerai tout de même que dans la mafia israélienne juive, dans les grandes familles donc de la pègre juive israélienne, il y a le même problème de beaucoup trop d'armes qui circulent. Devant d'État, il y a des règlements de compte également, alors pas dans si grand nombre, mais tout de même, il y a d'ailleurs entre la mafia musulmane et la mafia juive israélienne des accords, des jeux d'alliance ou des inimitiés, il y a donc tout un jeu entre eux qui est extrêmement dangereux, et que les deux mafias, qu'elles soient musulmanes ou juives, peu importe, israéliennes, ont des contacts avec la mafia palestinienne, et le trafic d'armes et de drogue entre elles est un trafic très très actif. Donc effectivement, dans le secteur arabe, c'est plus inquiétant de par la proximité parfois familiale de certains Arabes israéliens avec des membres de leur famille en territoire palestinien. Alors ça crée évidemment des liens qui n'ont peut-être pas la mafia juive avec les mafias palestiniennes, mais les réseaux existent. Et puis dans le secteur musulman israélien aujourd'hui, il y a une vague de vendetta extrêmement inquiétante, avec presque un meurtre par jour, de règlement de comptes, de chantage, de vengeance du sang et de l'honneur, ou tout simplement, ce qui est très courant dans la mafia arabe, c'est la protection, le racket, c'est-à-dire vous êtes, que les commerçants sont obligés de payer un droit de protection à la mafia s'ils ne veulent pas voir leur commerce prendre feu. Mais ça existe aussi du côté juif israélien, et je vous assure que les grands restaurants de Tel Aviv, de Haïfa, de Bat Yam, paye un droit de protection à la mafia locale qui, elle, n'est pas musulmane, mais bien juive. Donc, en gros, le problème de la pègre et la difficulté que la police israélienne a à confronter ce problème avec un système juridique qui est parfois beaucoup trop laxiste, font qu'il y a une prise de puissance de ces éléments criminels en Israël.
Alors, ça fait un moment quand même que beaucoup de gens alertent, Raphaël, sur cette criminalité dans le secteur arabe. Est-ce que l'intervention du Shabak, ça va vraiment changer la donne? On a l'impression que oui, non?
Ça peut surtout contribuer, c'est évident. La police israélienne, jusqu'à présent, s'est montrée plutôt frileuse. Il y a moins de policiers par tête d'habitants dans le secteur arabe israélien que dans le secteur juif. Les policiers israéliens n'ont pas tellement envie de rentrer dans certains villages arabes, craignant tout simplement pour leur propre sécurité. Donc, souvent, ils enquêtent, mais de loin, ils ont peur, carrément. Et puis, et malheureusement, récemment, nous avons un ministre de la Sécurité intérieure dont le professionnalisme laisse à douter, laisse à désirer, et qui fait que sa politique actuelle est un échec total sur le terrain, à quoi on ajoute son racisme anti-arabe qui vient de manifester pas plus tard qu'avant-hier et qui fait des vagues dans le monde entier. Donc une discrimination ferme et nette de son traitement du citoyen juif et du citoyen musulman qui ne peut que attiser les rancœurs au sein du secteur arabe, mais aussi et surtout un échec sur le plan professionnel. Lorsqu'il est arrivé à son poste, M. Begbir a promis beaucoup de choses. Aucune de ses promesses jusqu'à présent n'a été tenue. Et le secteur arabe demande aujourd'hui ce que M. Begbir demande pour lui-même, la création d'une garde nationale qui serait sous le contrôle des municipalités arabes. Il y aurait donc des sortes de milices sous le contrôle les municipalités arabes pour assurer la sécurité dans les municipalités arabes.
Eh bien, on suivra ça, puisque malheureusement, c'est un dossier qui reste d'actualité depuis un moment. Merci, Raphaël Girosalmi, écrivain, ancien officier des renseignements militaires. À très vite et bon week-end à vous.
Ça va, c'est alors.
Et 43 minutes sur Radio Judaïka, une